On est bon?
Alors, il est 15h30 avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave. On a le Rav Ethan Fison, qui est également guide. Et aujourd'hui.
Ah, c'est plus de ma faute.
Aujourd'hui, on va parler également d'histoire, puisque tu as intitulé le cours Les Neuf. Tu as intitulé le cours Les Neuf de Tisha B'Av. Et peut-être que tu vas parler de ça. Peut-être que tu vas parler de ce sujet, mais c'est quand même troublant de voir que toutes les Tsarot du Ham Israël vont tomber la même date. Alors que les fêtes, les moments de joie sont éparpillés tout au long de l'année, dès qu'il y a une tuile sur nous, ça va forcément tomber à Tisha B'Av. Alors, Bechavot.
Alors, c'est parti. Très bien. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que les neuf Tisha B'Av, c'était pour le jeu de mots, les neuf, neuf Av. En vérité, il y en a dix. En vérité, il y en a dix. Mais ça faisait moins bien dans le jeu de mots, donc j'ai marqué 9, mais en fait c'est 10. Alors pour répondre à ta question, et c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir, d'ailleurs je tiens à vous dire que je ne vais pas prendre de temps sur la suite du programme, je terminerai à l'heure, tout ira bien. Quoi qu'il en soit, par rapport à à ta question, et c'est une vraie question, toutes les malheurs arrivent le même jour, c'est incroyable. Eh bien j'ai envie de dire que c'est finalement extrêmement joyeux, ça fait plaisir. De savoir que même s'il y a du balagan, même s'il y a des problèmes, c'est un problème qui est organisé. C'est un problème qui finalement va quand même être dirigé quelque part. Et donc, ben, on peut dire que malgré le fait que ce sont des tsarotes incroyables qui nous ont touchés toujours le même jour, le fait que ce soit le même jour montre que même dans la souffrance, il y a un seder. Et ça montre qu'on n'est pas abandonné. Puisque évidemment, si ça avait été une fois ou deux fois, on veut bien. Mais là, on va parler de 10 fois. Eh bien, ça veut dire que c'est une volonté du Tout-Puissant de faire en sorte que les malheurs arrivent le même jour. Pour que justement, on sache de quoi il s'agit. C'est un jour qui justement doit nous faire prendre conscience que nous avons quelque chose à faire. Alors, justement, venez, on rentre dans le vif du sujet. Tisha B'Av, les 10 de Tisha B'Av. Alors, la Mishnah dans le traité de Ta'anit, bien la Mishnah va nous dire que 5 choses sont arrivées à nos ancêtres à Tisha B'Av. J'ai envie de dire que la Mishnah, c'est pas qu'elle n'a pas raison, c'est juste qu'elle a été rédigée plus ou moins en l'an 200. Donc, elle s'est arrêtée plus ou moins à son époque. Donc, évidemment, les 5 choses qu'elle décompte, c'est depuis la première fois qu'il y a eu un Tisha B'Av dans l'histoire jusqu'à l'époque de la Mishnah. Mais on va voir ensemble qu'il y a eu d'autres événements qui sont arrivés à Tisha B'Av. Évidemment, notre cours n'est pas seulement un cours d'histoire, mais on va essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui se cache derrière chacun des événements. Alors tout d'abord, venez, on va se replonger dans les paroles de la Mishnah. Donc, dans le traité de Ta'anit, la Mishnah va nous dire que... Oui, vas-y, Yohan.
Jusqu'à 16h15.
Top. Oulala. Oulala. Bekitsour. Donc la Mishnah nous dit la chose suivante. 5 choses sont arrivées à nos ancêtres. Alors elle commence en parlant du 17 Tammuz, mais on va s'occuper aujourd'hui principalement de Tisha B'Av. Et 5 choses sont arrivées à Tisha B'Av. D'ailleurs, entre parenthèses, pour continuer la réponse à la question que tu as posée tout à l'heure, vous voyez qu'à chaque fois que Dieu veut créer quelque chose, ça passe par 10. Asara ma'amarot, 10 paroles pour créer le monde, 10 dorot, 10 générations pour arriver de Adam à Noach, 10 générations pour arriver de Noach à Abraham, 10 miracles qu'il y avait au Beth Amikdash. C'est-à-dire que le dévoilement passe par 10. Le fait que dans la brisure de la Mishnah, on nous parle de 5 et 5, ça montre qu'il y a quand même 10 quelque part. Et quand je parle aujourd'hui de 10 Tisha B'Av après la Mishnah, eh bien, ça montre qu'on est toujours dans la même madriga. Donc, c'est quoi les 5 choses qui sont arrivées à nos ancêtres à Tisha B'Av d'après la Mishnah? Eh bien, le premier, c'est Chet HaMeraglim. Enfin, pas exactement la faute des explorateurs, mais en fait, la faute des explorateurs a eu lieu le 8 du mois de Av, et non pas le 9. C'est la punition de Dieu qui a eu lieu le 9, que finalement, eh bien, il va être décrété qu'on ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. La deuxième chose qui arrive à Tisha B'Av, c'est la destruction du premier temple en l'an -586. La troisième chose qui arrive, c'est la destruction du deuxième temple en l'an 70. La quatrième chose, c'est la chute de Bétar qui a lieu en l'an 135. C'est la fin de la révolte de Bar Korva. Et enfin, la dernière chose, Zevenichrecha à Ir, que la ville a été salée. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'était une technique romaine bien connue de l'époque, que lorsque les Romains avaient battu une ville et qu'elle ne voulait pas que cette ville puisse jamais renaître, eh bien, symboliquement, on creusait deux sillons au centre de la ville, on y mettait du sel pour symboliser que rien ne pourra plus jamais y repousser. C'est ce que les Romains avaient fait à Carthage et dans d'autres cités. Et donc, ils l'ont fait également à Jérusalem. Cette fois, je ne peux pas vous dire si c'est l'année 136 ou 137, mais c'est juste après la guerre de Bar Korva. Cinq choses sont donc arrivées à nos ancêtres à Tisha B'Av à l'époque de la Mishnah. Mais si on regarde un petit peu plus près, avant de continuer notre récit historique, eh bien, on se rendra compte que ces cinq brisures, ces cinq cassures que sont Tisha B'Av, qu'il n'y a pas de plus grande brisure que Tisha B'Av, c'est évident, eh bien, on va se rendre compte que, en fait, elles ont à chaque fois, c'est une brisure qui prennent leur départ au centre de tout, mais qui vont augmenter. Je voudrais expliquer deux secondes de quoi je parle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les cinq choses qui sont arrivées à Tisha B'Av à nos ancêtres, d'après la Mishnah, sont à mettre en parallèle aux cinq choses qui sont arrivées le 17 Tammuz, évidemment. Ce sont cinq départs, points de départ et cinq points d'arrivée. Je veux qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. La première chose qui est arrivée, on a dit, c'est la faute des explorateurs. C'est quoi la faute des explorateurs? C'est le fait que Am Israël n'ait pas voulu rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire le fait qu'on n'ait pas voulu tout simplement réaliser le témoignage que Dieu a donné à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dieu a fait une promesse à Abraham, Yitzhak et Yaakov, cette fois dans le livre de Bereshit, et cette promesse est claire, nous donner la terre d'Israël. C'est-à-dire que nous avons un édoute, un témoignage qui nous vient de nos ancêtres, que cette terre, c'est l'endroit où nous pouvons réaliser notre relation avec Dieu. La faute des explorateurs, c'est tout simplement décider que cet endroit de la révélation, eh bien, on n'en veut pas. On décide de se séparer du témoignage de la révélation à Dieu. Dans l'histoire, l'endroit du témoignage, l'endroit de la révélation, eh bien, va prendre un aspect physique puisque ça va être le Kodesh à Kodashim. Le Kodesh à Kodashim, plus que n'importe quel endroit, est l'endroit de la révélation. L'endroit où on reçoit tout simplement la rencontre panim el panim avec Akadosh Baruch Hu. C'est là-bas que Moshe Rabbeinu rentrait pour entendre ce que Dieu avait à lui dire. C'est l'endroit de la rencontre par excellence. La deuxième brisure n'est plus seulement dans le Kodesh à Kodashim, mais s'augmente, puisque c'est la destruction du premier Beth Amikdash. Seul et véritable Beth Amikdash véritable, puisque le premier, le Mishkan, était dans le désert, n'était pas à sa place. Le second Beth Amikdash était sympathique, mais il n'y avait pas de Shrina là-bas, puisqu'on ne le méritait pas. Le seul véritable Beth Amikdash, pour le moment, tant qu'on n'a pas reconstruit le troisième, c'est bel et bien le premier. Et donc, la destruction du Beth Amikdash montre que la brisure peut avoir lieu dans le Beth Amikdash. La troisième brisure, c'est le second Beth Amikdash. Or, le second Beth Amikdash Rabotai, eh bien, finalement, en l'an 70, ce n'est pas tellement le Beth Amikdash qui a été détruit qui nous pose problème, mais c'est bien plus la destruction de Jérusalem. J'en veux pour preuve les différents décrets de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui va mettre en place des décrets pour se souvenir de cette période-là. Et vous remarquerez que ces décrets, eh bien, sont beaucoup plus liés à Jérusalem qu'au Beth Amikdash. Quand on va se retrouver dans un mariage et qu'on va briser un verre, on va chanter Imeshkacher Yerushalayim, mais on ne va pas rappeler un verset qui parle du Beth Amikdash. Et pourtant, il y en a plein. Quand on va laisser un morceau de mur, un demi-mètre sur un demi-mètre non construit, pour se rappeler que Jérusalem n'est pas construite totalement, eh bien, encore une fois, on s'attache à Jérusalem. C'est-à-dire que la majorité des décrets sont pour Jérusalem et pas pour le Beth Amikdash. Et effectivement, la phrase qui va maintenir le peuple juif depuis la destruction du second temple est l'an prochain à Jérusalem et non pas l'an prochain au Beth Amikdash. En d'autres termes, la destruction du deuxième Beth Amikdash, c'est surtout la destruction de Jérusalem. Donc en fait, on voit que... Oui ?
Là,
Oui.
Oui, mais peut-être que justement, Jérusalem est une étape, comme c'est écrit dans la Mishnah. On doit d'abord revenir à Jérusalem pour revenir au temple.
Bien sûr.
Mais le temple est tellement loin à appréhender que finalement, on ne pouvait pas dire l'an prochain au temple.
Pourquoi on ne pouvait pas dire l'an prochain au temple? Parce qu'on se rendait compte qu'une Jérusalem détruite ne nous laissait plus la possibilité d'entrevoir l'idéal du temple. D'ailleurs, c'est la halakha. Aujourd'hui, je ne sais pas si on nous regarde depuis Paris, mais si on nous regarde depuis Paris, quand on veut faire la tfila, dans quelques heures, ce sera mincha, vers où les Parisiens vont se tourner? Les Juifs de Paris, vers où vont-ils se tourner d'après la halakha? Pas vers Jérusalem. Ils vont se tourner vers Eretz Israël. Parce que lorsqu'on est en Chutz La'aretz, même la dimension de Jérusalem est trop lointaine. Donc il faut d'abord s'attacher à Eretz Israël. Ensuite, le juif qui habite à Eilat, eh bien, ou à Haïfa, ou à Tel Aviv, il se tournera, shalom Alex, enfin on ne dit pas shalom, mais shalom quand même, on est après Chatzot, donc on peut se calmer là-dessus. Celui qui habitera à Tel Aviv se tournera vers Jérusalem, il ne peut pas encore appréhender la dimension du Beit HaMikdash. Par contre, celui qui sera à Jérusalem se tournera vers le Har HaBayit, l'endroit du Beit HaMikdash. Et celui qui est au Beit HaMikdash se tournera vers le Kodesh HaKodashim. Donc on voit que justement les brisures commencent à l'endroit le plus profond, Kodesh HaKodashim, ensuite le Mikdash, ensuite Jérusalem. Ensuite, on a dit qu'il y a eu la chute de Beitar, c'est-à-dire la fin de la révolte de Bar Korba, qui a vu finalement la chute de la Judée, la chute de tout le pays d'Israël. Et enfin, eh bien, Nichrecha Ha'ir, c'est-à-dire le symbole que Jérusalem ne pourra jamais plus revenir. Or, je vous rappelle que Jérusalem a une dimension qui est bien au-delà de la simple Jérusalem, puisque Yerushalayim Oro Shel Olam, et que donc le fait qu'on dise pas seulement qu'on a détruit Jérusalem, mais que Jérusalem ne se réveillera jamais, ça porte une brisure au sein même du monde, même si les goyim ne le savent pas forcément. Lorsque Jérusalem n'est plus un espoir pour personne, c'est le monde entier qui devient sombre. En d'autres termes, les cinq choses qui sont arrivées à nos ancêtres à Tisha B'Av, eh bien, sont en rapport avec ces cinq éléments de destruction. Évidemment que Tisha B'Av n'est pas seulement un jour où on pleure sur le passé, mais un jour où on construit notre avenir. Et donc, eh bien, il faut petit à petit retrouver ces cinq dimensions. Mais pendant 2000 ans, ces cinq dimensions étaient tout simplement accompagnées de cinq interdits. Eh oui, car d'après la halakha, d'après le Shulchan Aruch, eh bien, il y a cinq choses, comme de par hasard, vous allez me dire, cinq choses qui sont interdites à faire à Tisha B'Av. Et vous avez pu commencer déjà à vous en douter, ces cinq choses, chacune, est à mettre en relation directe avec l'un des événements de Tisha B'Av. La première chose qui est interdite à Tisha B'Av, c'est une chose qu'on ressent évidemment en ce moment, on n'a pas le droit de manger. Eh oui, Assur Achila. Ah bah oui, évidemment qu'on en souffre là maintenant, Issur Achila. Mais pourquoi on n'a pas le droit de manger? Eh bien, je vais vous dire. Parce que pourquoi on doit manger? Pourquoi on doit manger d'après le judaïsme? Eh bien, l'idéal de manger, c'est-à-dire d'élever toute notre réalité à la dimension de sainteté, eh bien, c'est le propre de la terre d'Israël. C'est ce qu'on dit dans le Birkat Hamazon et dans la Bracha Me'en Shalosh, Ken Bracha Charona. On va dire, pourquoi est-ce que j'ai mangé tout ça? Les Chol Mipiria Velisboa Mituva. C'est pour ça que je suis rentré en Eretz Israël. Je suis rentré en Eretz Israël pour manger de ces fruits. À tel point que la Gemara dira que lorsque Moshe dans Va'etranan, la paracha que nous allons lire, eh bien, Moshe demande tellement à rentrer en Israël. La Gemara pose la question et dit « Vechi lechol mituva ou tsarich ?» Et quoi, Moshe, il a besoin tellement de manger des fruits de la terre d'Israël? Alors la Gemara répond « Non, lui, il n'a pas besoin. Lui, il a un autre niveau. » Mais ça veut dire que nous, on a besoin de cela. Effectivement, pour réaliser l'élévation de ce monde à la dimension de la sainteté, nous avons besoin de la terre d'Israël. Nous n'avons plus la terre d'Israël à cause de la faute des explorateurs. Assur les Echol. Ensuite, il y a la destruction du premier temple. Nous avons dit que le premier temple était le véritable temple comme il faut. Et c'était d'ailleurs l'idéal de la prophétie. Car après la destruction du premier temple, c'est petit à petit la prophétie qui va cesser d'émettre, si je pouvais dire comme ça. Il n'y aura plus de Wi-Fi. Et donc, ben vous comprenez pourquoi le deuxième interdit qui est en relation directe avec la destruction du premier temple et donc l'arrêt de la prophétie, eh bien, c'est shtia, assur lishtot. Vous allez me dire quel rapport entre lishtot et la prophétie? Mais c'est très simple. La Gemara, dans le traité de Souka, nous raconte comment les prophètes, et particulièrement Yona Anavi, eh bien, puisaient leur prophétie le jour de Simchat Bet HaShoeva. Simchat Bet HaShoeva, c'est le jour où on va puiser de l'eau à la source du Shiloach, et on va l'amener sur le Mizbeach au Bet HaMikdash, qui va bénir toute l'eau qui va tomber en pluie et qui va donc nous servir à boire pendant toute l'année. En Maim et la Torah, me direz-vous. Et moi, je dirais plus que cela. D'où croyez-vous qu'elle vient, l'expression française « boire les paroles » ? Eh bien, elle vient de là, les amis. Boire les paroles, c'est tout simplement qu'on buvait la prophétie. C'était par le moment où on puisait l'eau qu'on pouvait se connecter au roi HaKodesh, qu'on pouvait se connecter à la Névoie. En d'autres termes, le premier Beth Amikdash s'arrête, la prophétie commence à s'arrêter, eh bien on ne peut plus boire. Ensuite, il y a le deuxième Beth Amikdash. Seulement le deuxième Beth Amikdash qui se meurt, eh bien ce n'est plus l'arrêt de la prophétie, il n'y a déjà plus de prophétie. Certes, vous allez me dire, Haggai, Zecharia, Malachi, les derniers prophètes parlent de la reconstruction du deuxième temple, mais ça y est, après c'est terminé. Et donc pendant toute la période du deuxième temple, il n'y aura pas de prophétie. Donc, quel est l'élément central de cette période du Deuxième Temple dans notre connexion à Dieu, si ce n'est plus la prophétie? Eh bien, je vous invite, avec Johan, avec moi, avec d'autres guides, à faire le tour un petit peu de Jérusalem. Rentrez en vieille ville. Et là-bas, vous allez comprendre quelque chose d'assez incroyable. Vous allez voir que partout, quelle est la chose qu'on retrouve en profusion dans la vieille ville de Jérusalem quand on regarde les vestiges de l'époque du Second Temple? Eh bien, ce sont les mikvaot. Il y a des mikvot partout. Un mikvé po, un mikvé là, un mikvé po, un mikvé là. La notion de tahara est la notion centrale de l'époque du Beit Sheni. Il n'y a qu'à aller se balader dans le Rova Hérodiani, dans le quartier hérodien, un véritable quartier d'habitation des Kohanim de l'époque du Deuxième Temple. Dans chaque maison, il y a un mikvé. La notion de tahara était fondamentale. Or, la notion de tahara, c'est tout simplement ce qui nous permet d'être en état d'avoir le Beth Amikdash. Pas de tahara, pas de korbanot, pas de korbanot, pas de relation directe avec Dieu. Rabotai. Donc la tahara, par la tevila, était l'essence de l'époque du Second Temple. Il n'y a plus de Second Temple. Assur rechatsa. On n'a pas le droit de s'immerger dans l'eau, de se laver. C'est ce qu'on a de plus rapprochant à l'état de mikvé. On n'a évidemment pas le droit d'aller au mikvé le jour de Tisha B'Av. Ensuite, il y a eu la chute de Beitar. La chute de Beitar, on a dit, c'était la fin de la guerre de Bar Korva. Et cette fin de la guerre de Bar Korva a vu également la fin de notre règne en Judée, de notre présence juive en terre d'Israël, plus particulièrement en Judée. Vous savez qu'après la guerre de Bar Korva, il y a eu les décrets d'Adrien. Adrien, l'empereur romain, que son nom soit effacé et pourri jusqu'à la fin des temps, non, parce qu'en termes de Richout, il est pas mal. Il est dans mon top 5 hein, de rachats antisémites. Adrien a été un des premiers qui a fait des décrets antisémites, mais bien comme il faut. Je n'ai pas dit le premier, un des premiers. Et parmi les décrets, eh bien, il y en a qui sont des classiques, hein, comme on a pu voir à l'époque de Hanouka. On a parlé de faire la Torah, la Brit Mila, nanana. Mais il a rajouté des nouveautés. Un juif n'a plus le droit d'habiter à Jérusalem. Un juif n'a plus le droit d'habiter dans n'importe quel endroit où il pourrait voir Jérusalem. Un juif, évidemment, ne peut plus se reconnaître à Jérusalem puisque cette ville va s'appeler maintenant Aelia Capitolina. On va construire un temple de Vénus à l'endroit du Beth Amikdash. Mais ce qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui et qui nous pose problème jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas Aelia Capitolina, c'est le fait que la Judée ne s'appelle plus ainsi et va s'appeler Palestine. Combien on souffre de cette notion de Palestine encore aujourd'hui ? En d'autres termes, la chute de Beitar, c'est la chute de l'espérance. Après le premier temple et la destruction et l'envoi en exil, il y avait les prophètes qui nous ont donné l'espoir que « t'inquiète pas, on va revenir ». Après la destruction du deuxième temple et la chute de Bar Korva, c'est tout l'espoir messianique qui est tombé dans les chaussettes. Certes, pas complètement annihilé, puisque nous sommes toujours là, nous sommes la preuve que l'espoir a payé, mais c'est un espoir qui était pratiquement insondable. Cet espoir messianique qu'on appelle en hébreu « ikveta de Meshicha », les talons du Mashiach, Eh bien, c'est cela qu'on a plus le droit de porter après la destruction de Bétar. Quatrième interdit de Tisha B'Av, c'est Issur Ne'ilat HaSandal. On n'a plus le droit de mettre des chaussures en cuir. Les chaussures en cuir, à l'époque, on parle de sandales, sont les seules chaussures qui ont des talons pour être capables de donner une impulsion. De la même façon, la Gemara, dans le traité de Shabbat, va nous dire que c'est quoi qui a marqué véritablement la fin de Bétar ? C'est la sugya qui parle de la sandale à Mesumar, la sandale cloutée des soldats romains qui rentraient dans les tunnels de Bar Korba, les tunnels qui menaient à Bétar et qui ne laissaient plus aucun espoir au peuple juif. En d'autres termes, l'espoir de Ikveta Dimshicha est tombé, on n'a plus le droit de mettre des chaussures en cuir. Et enfin, Nechrecha Ir, on a dit que l'idéal de l'éternité de Jérusalem, de ce message pour le monde entier, était tombé, puisque plus rien ne va pousser, plus rien ne va ressusciter. Eh bien, vous comprenez pourquoi la dernière interdit de la Mishnah, de la Shulchan Aruch, va être Asur Tashmish Amita. On n'a pas le droit qu'un homme et une femme s'unissent le jour de Tisha B'Av, c'est interdit. Parce que si il est question ici d'annihiler la possibilité de résurrection, eh bien, on ne peut pas non plus créer la vie. Donc, vous comprenez que les cinq interdits de Tisha B'Av sont directement liés aux cinq événements qui ont touché nos ancêtres. Mais comme on l'a dit, eh bien, la Mishnah s'est arrêtée en plus ou moins en l'an 200, mais l'histoire juive a continué. L'histoire juive a continué et des drames ont continué à toucher notre peuple. Et comme on l'a dit au tout début du cours, eh bien, ces drames étaient toujours le jour de Tisha B'Av. Alors, je vous emmène dans un petit récapitulatif historique. Le prochain Tisha B'Av de l'histoire aura lieu 1000 ans plus tard. Pourquoi il a fallu attendre si longtemps? Pourquoi est-ce que pendant les 1000 années qui séparent la chute de Beitar et le sixième Tisha B'Av qui va toucher le peuple juif, pourquoi il faut attendre ces 1000 années? Eh bien, peut-être parce qu'il s'agit d'un enseignement du Zohar qui nous dit que pendant les 1000 ans après l'exil, eh bien, on ne peut pas attendre le Mashiach. Il doit y avoir cette période, si vous voulez, de léat-léat. Il faut que les choses se mettent en place. Donc, l'espérance d'une sortie d'exil, bah, pendant 1000 ans, elles étaient mises entre parenthèses. Mais tout d'un coup, elles reviennent. Et nous sommes en 1290. En 1290, il y a le Girush Yehudé Anglia, l'expulsion des Juifs d'Angleterre. Alors, dans un premier temps, je vais les évoquer, les cinq, et ensuite, nous reviendrons sur chacun d'entre eux. Donc, 1290, l'expulsion des Juifs d'Angleterre. 1306, pas tellement plus longtemps après, mais dans un registre complètement différent, l'expulsion des Juifs de France. J'allais dire l'expulsion, il y en a eu plusieurs des expulsions des Juifs de France. Celle de Philippe IV et de 1306 est la plus importante et la plus grande en termes de nombre et la plus violente. Donc, c'est celle-là qu'on va retenir. L'expulsion des Juifs d'Angleterre a eu lieu, mamash, le 18 juillet 1290, Tisha B'Av. L'expulsion des Juifs de France a eu lieu le 22 juillet 1306. Elle a commencé le soir de Tisha B'Av et a continué le 10 du mois de Av. Ensuite, il y a en 1492, vous le savez, l'expulsion des Juifs d'Espagne qui a eu lieu, en fait, le 31 juillet 1492. Et ça marquait Le 8 et 9 Av de cette année-là, ça marquait la fin des 4 mois qui avaient été donnés aux Juifs pour ne plus se trouver sur le territoire espagnol. Ça y est, c'était la fin. Le lendemain, il ne devait plus y avoir un seul Juif en Espagne. Ensuite, le 28 juillet 1914, commence la Première Guerre mondiale. Mais en vérité, non. Elle ne commence pas le 28 juillet, le 5 Av, puisque ça, ce n'est que l'invasion de l'Empire austro-hongrois de la Serbie. Ce n'est que 4 jours plus tard, lorsque l'Allemagne va se mettre en allié de l'Empire austro-hongrois, que l'Angleterre et la France vont donc rentrer dans la guerre et que cette guerre deviendra la Première Guerre mondiale, effectivement. Tisha B'Av. Et enfin, durant la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas commencé à Tisha B'Av, mais durant la Seconde Guerre mondiale, pour nous, le peuple juif, alors, qu'est-ce qui a frappé le peuple juif dans la Première Guerre mondiale? C'est une guerre mondiale, vous allez me dire. Mais le Rav Kling a fait une très belle vidéo dans laquelle il a expliqué que c'était la première fois où le peuple juif allait devoir s'entretuer, puisque c'était la première fois où il faisait partie des différentes armées en tant que citoyen des nouveaux pays dans lesquels c'était nouveau qu'ils avaient reçu la citoyenneté et qu'ils allaient devoir se tuer les uns les autres. Et enfin, donc, j'allais dire, dans la Seconde Guerre mondiale, eh bien, c'est le jour de Tisha B'Av qu'a été mise en fonction les camps de l'action Reinhardt. L'action Reinhardt, c'était le moment où on allait créer trois camps qui avaient pour seul et unique but la solution finale. L'action Reinhardt avait été décidée le 20 janvier 1942 dans la conférence de Wannsee, mais ce n'est que le 22 juillet 1942 que le premier convoi va arriver au camp de Treblinka. La mise en fonction du camp avec Sobibor et Belzec, qui finalement verront la destruction de centaines de milliers, de millions de juifs dans ces trois camps de la mort. Et ça a commencé donc le 22 juillet 1942, le jour de Tisha B'Av. Avant cela, il y avait une Shoah évidemment par balle, une Shoah terrible, mais il n'y avait pas encore la systématisation de l'extermination. Cinq événements qui ont touché notre peuple. Je pourrais mettre dedans également, il y a 15 ans, l'expulsion des Juifs du Gouche-Katif, mais pour moi, bien que ça ait commencé, Motsaé, Tisha B'Av, c'est fondamentalement différent, puisque cette fois, c'est nous-mêmes qui nous sommes auto-fait du mal. Et donc, je le mets quand même dans une situation différente. Johan, tu voulais dire quelque chose ? Non ? Excuse-moi. Bekitsour, maintenant qu'on a vu les cinq événements qui ont suivi les cinq premiers, venez, on va revenir un petit peu. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, que face aux cinq événements de la Mishnah, il y avait cinq interdits. Eh bien, je vous le donne en mille. Mais face aux cinq événements qui ont suivi, qui ont accompagné le peuple juif durant tout son exil, il y a cinq autres interdits qui sont plus du domaine du minag, qui sont moins violents que les cinq premiers. On va dire que les cinq premiers, c'est un peu du deoraita et les cinq suivants sont un peu du derabanan. Il y a cinq minagim de Tisha B'Av qu'on continue à faire encore aujourd'hui et qui sont à mettre en relation avec ces cinq événements. Quels sont-ils ? Eh bien, le premier, tout simplement, c'est Issour, la faute des explorateurs, c'est aussi nous qui nous sommes fait du mal tout seuls. Tout à fait, la faute des explorateurs, c'est nous qui nous sommes fait du mal. Mais la xéra, elle ne vient pas de nous. Ce n'est pas Moshe qui a dit « Ah ben très bien, puisque vous ne voulez pas rentrer, on ne rentre pas ». Non, la xéra, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est indépendant de notre volonté. Alors que là, malheureusement, c'est Ariel Sharon tout seul comme un grand qui a décidé du Gouche-Katif, enfin de l'expulsion du Gouche-Katif. Donc, je le mets de manière complètement différente. Abotai, je reviens à mon expulsion des Juifs d'Angleterre. 1290, expulsion des Juifs d'Angleterre. Et j'ai dit, c'est le premier événement, il va falloir trouver quel est l'interdit de Tisha B'Av. Je vous l'ai dit, l'interdit de Tisha B'Av, c'est quoi face à ce premier nouvel événement, eh bien, c'est tout simplement Issour Melacha. Il y a un minag de ne pas faire de Melachot le jour de Tisha B'Av. Alors, il ne s'agit pas des mêmes Melachot, évidemment, qu'à Shabbat. Ce ne sont pas les Melachot de Shabbat, ce sont des Melachot les Parnassa. À tel point que la Halakha nous dira que Mishe mit Parnes, Loroe Beze Siman Bracha. Donc, on a le minag comme ça de ne pas travailler, de ne pas amener du business, de ne pas faire de l'argent le jour de Tisha B'Av. Vous voyez que je suis en train de bugger deux secondes, ce n'est pas pour rien. C'est parce que je suis en train de vous trouver une photo qui va exprimer totalement ce que je suis en train de dire, que je vais vous montrer tout de suite. Donc, voilà, ça y est, c'est parti. Voilà. Donc, Bekitsour, Girush Yehudei Anglia, c'est Keneged, Issour Melacha. Vous allez me dire, mais quel rapport ? Pourquoi ? Parce que les Juifs ont été expulsés du royaume d'Angleterre par notre ami Édouard Ier. Pourquoi c'est en rapport avec Issour Melacha ? Eh bien, tout simplement à cause de cette chose-là. Si on veut comprendre ce qui s'est passé en 1290, venez, on va filer au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, c'est le retour des Juifs d'Angleterre. Ça y est, la permission est donnée aux Juifs d'Angleterre de revenir en Angleterre. Lama. Eh bien, parce qu'il y a un homme qui va décider de prendre sur lui, de permettre aux Juifs de revenir en Angleterre. Ah ouais ? Mais c'est qui cet homme-là ? Eh bien, cet homme-là, voilà, je vous le montre. Je vous montre la photo. Elle est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est bon, vous voyez ? Il a l'air d'être... Voilà, il a l'air d'être un des trois mousquetaires. Eh bien, alors d'abord, j'aimerais deux secondes qu'on se rende compte deux secondes que cette photo-là, c'est un portrait, c'est un tableau qui vaut des millions, enfin je ne sais pas des millions, j'exagère peut-être, mais beaucoup, beaucoup d'argent, puisque c'est un vrai et officiel Rembrandt. Et ce Rembrandt, vrai et officiel, n'est tout simplement que le portrait de Rabbi Menaché Ben Israël. C'est son portrait, pourquoi ? Parce qu'ils étaient voisins. Voilà, ils étaient voisins à Amsterdam, donc à un moment donné, il lui a dit « tu ne pourrais pas me dessiner, il paraît que tu dessines bien ». Et donc, on a le portrait de Rabbi Menaché Ben Israël. Maintenant, quel rapport ? Eh bien, ce Rav, Rabbi Menaché Ben Israël, eh bien, Rabbi Menaché Ben Israël, il va tout simplement aller ad asof dans son limud Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, ad asof dans son limud Torah ? Eh bien, lui, il va étudier la Torah, il va comprendre qu'il y a un verset. Un verset qui nous vient directement des prophètes, dans lequel Rabbi Menaché Ben Israël voit le retour des Juifs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce verset ? Eh bien, c'est un verset que je vous cite tout de suite, qui vient donc de Zecharia Hanavi, de Ishayahu Hanavi, je dis n'importe quoi, de Ishayahu Hanavi, qui nous dit que ça sera quand le dévoilement de Kvod Hashem, lorsque la parole de Dieu ira jusque dans les îles lointaines. Les îles lointaines ? Bémet, les îles lointaines, quel rapport ? Eh bien, Rabbi Menaché Ben Israël nous dit que les îles lointaines, c'est l'Angleterre. Voilà comment il comprend le verset. Il faut donc que la parole de Dieu arrive dans les îles lointaines et que ainsi le kavod sera ramené à Kadosh Baruch Hu. Mais comment est-ce qu'on ramène le kavod ? La parole de Dieu, elle doit être transmise par les Bnei Israël. Le kavod, c'est lorsque les Bnei Israël ne sont plus miskénim et sont capables par leur parnassa de devenir des gens qui développent le monde. Et de là à Rothschild, il n'y a qu'un pas. En d'autres termes, c'est grâce à cet argument que Cromwell va accepter que les Juifs reviennent en Angleterre. En d'autres termes, les Juifs d'Angleterre, c'est la base de l'abondance matérielle que le peuple juif doit faire sien pour amener la Géoula. En d'autres termes, l'expulsion des Juifs d'Angleterre, eh bien, c'est également l'expulsion des Juifs, le Issour Melacha. Ensuite, on a dit l'expulsion des Juifs de France. Eh bien, il y a un autre interdit à Tisha B'Av. C'est quoi cet autre interdit ? Eh bien, on n'a pas le droit de sentir les Bessamim. On n'a pas le droit de sentir du parfum. Mais attention, il ne s'agit pas d'un Chanel numéro 5. Marc Loquette dans les Rishonim, est-ce que c'est tous les parfums ? Finalement, la halakha, elle dit que non, c'est que les parfums de la Havdala. C'est-à-dire que les parfums que tu utilises pour la Havdala, tu n'as pas le droit de les sentir à Tisha B'Av. C'est pour ça que chez les Ashkenazim, les vieux Ashkenazim, eh bien, on avait l'habitude de se balader pendant les jeûnes à Yom Kippour, mais aussi à Tisha B'Av, avec ce qu'on appelle du Shmek Tabek. Mais Shmek Tabek, c'était une petite boîte en fer avec du tabac parfumé à l'intérieur pour sentir, comme ça, ça fait du bien. Seulement, on ne prenait pas les encens qu'on mettait dans la Havdala. Lama, parce que c'est Assour. Lama, c'est Assour. La Havdala, son rôle, c'est justement de l'Avdil. C'est-à-dire de comprendre qu'il y a des madrigotes, de comprendre qu'il y a des différences, que tout est Echad, aval qu'il y a des madrigotes. Shabbat, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, Yom Chol, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a des niveaux, si vous voulez. Quel rapport avec l'expulsion des Juifs de France, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que Manitou, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, expliquait que quelle est et quelle doit être la Trouma, l'apport des Juifs de France dans la Géoula. Eh bien, c'est justement qu'en France, on a appris l'esprit de Bina, l'esprit de Havdala, l'esprit de synthèse, comme on l'appelle en France. Être capable de faire thèse, antithèse et donc synthèse, eh bien, c'est le propre de la culture générale et de la culture française que nous avons reçue. Ainsi, l'expulsion des Juifs de France, c'était la fin de notre capacité de Havdala. Et donc, le Issour Havdala, le Issour de Bessamim de la Havdala, et c'est aussi un des Issourim de Tisha B'Av. Ensuite, il y a eu le Girouche Sfarad, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et là, je n'ai pas besoin de vous le dire. Les Juifs d'Espagne, c'est l'âge d'or de la Torah. Une quantité de Torah absolument extraordinaire. La majorité des Rishonim sont de près ou loin rattachés à l'Espagne. Que ce soit depuis la génération du Rif, du Rambam, de Shmuel Anagid, jusqu'à Abrabanel. Toute la Torah nous vient de ces Juifs d'Espagne. Et donc l'expulsion des Juifs d'Espagne nous voit avec cet interdit que vous connaissez très bien, qu'à Tisha B'Av, on n'étudie pas la Torah. Et ensuite, nous arrivons à Milchemet Haolam Arishona. Milchemet Haolam Arishona, la Première Guerre mondiale, c'est la première fois où le monde entier, et particulièrement le peuple juif, comme on l'a dit tout à l'heure, entre eux-mêmes, était en guerre. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que s'il était en guerre, il n'était pas en paix. Ainsi donc, eh bien, à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se demander la paix l'un l'autre. on ne se salue pas. Mais ce n'est pas une question de se saluer. Comment ça va ? Non, 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 on ne se dit pas « Mashlomcha »,« Drishat Shalom ». Ce n'est pas seulement « Bonjour ».« Mashlomcha », ça veut dire « Makorei Mashlemut Shelcha ». Où en es-tu avec ton entièreté, ta perfection ? La paix, c'est ça, c'est la plénitude. En d'autres termes, le monde était en guerre, il ne pouvait pas y avoir de shalom. Et enfin, durant la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, eh bien la Shoah a montré que l'homme n'était pas capable d'être un homme. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'après la halakha, un homme, c'est à partir du moment où il est « me'al asara tfachim ». À partir du moment où il est au-delà de 10 tfachim, à peu près 90 cm, 80 cm, c'est un homme. On ne parle pas au niveau biologique, on parle au niveau de la morale. Il faut qu'il s'élève un petit peu du sol. À tel point qu'on dira dans la Gemara que Paro, pharaon d'Égypte, il mesurait moins de Asarat Fahim, ce qui n'est évidemment pas vrai physiquement parlant. Mais ça veut dire qu'il était un animal qui longe le sol. L'homme doit être capable de s'élever au-delà du sol. Pendant la Shoah, l'homme a montré qu'en tant qu'être humain, il était devenu pire qu'un animal. Il n'était plus du tout un homme. Il n'était plus capable d'être celui que le Rav Kook appelle à être. Ben Adam, allez le mal à aller. Kiesh becha kanfe ruach. Tu peux t'élever jusqu'au ciel. Évidemment, il est inutile de préciser que le peuple juif, à cause des persécutions de la Shoah, n'était pas capable non plus de s'élever. Ainsi, à Tisha B'Av, il y a le cinquième interdit, c'est qu'on ne s'assoit pas au-delà de Asarat Tfachim. On ne s'assoit pas sur une chaise. On ne s'assoit que sur le sol, parce qu'on ne peut plus s'élever. 10 événements face à 10 interdits. Mais nous sommes en 2020. Et nous sommes en 2020 et nous sommes tellement, tellement plus proches du tikkun que des problèmes que je ne vais pas vous dire aujourd'hui ici qu'il est temps d'annuler les interdits. Mais je suis là pour vous dire que grand nombre d'entre eux, nous les avons corrigés. Nous sommes prêts à les remettre en pratique. Nous sommes prêts à tout simplement nous réélever, car de la Shoah, nous avons ressuscité avec notre État d'Israël renouvelé. Nous sommes prêts à redonner au monde sa notion de shalom, puisque nous avons maintenant une dimension de nation qui peut parler aux nations. Nous avons également retrouvé notre Torah, car nous avons lu dans la Megillah de Echa, Malka Vesarea Bagoyim en Torah. C'est-à-dire que quand on est en exil, nous n'avons pas de Torah. C'est le Talmud de Babylone qui dira cela. Il est à Babylone et c'est le Talmud, Nachon, mais il sait qu'en exil, la dimension de Torah n'est pas la véritable. Donc, Malka Vesarea Bagoyim en Torah. Nous avons aujourd'hui retrouvé une Torah extraordinaire. De la même façon, eh bien, ça y est. Les Juifs de France sont en train de monter en Israël, sont en train de donner leur Terouma à la Géoula, à donner cette notion de synthèse, de Bina, de Avdala. Et enfin, Baruch HaShem, Israël est un pays de start-up nation, un pays qui n'a plus rien à envier à ses voisins au niveau de sa grandeur économique. Alors le corona est un machber, évidemment, mais ne vous inquiétez pas, on va revenir à notre situation économique extraordinaire comme on avait avant le corona, et Bezrat HaShem, tout ira bien. Donc, nous avons corrigé ces 5 problèmes. De la même façon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à corriger également. Et d'ailleurs, vous voyez que ces 5 choses-là ne sont pas tellement respectées aujourd'hui. Il y a plein de gens qui ken travaillent, il y a plein de gens qui ken vont quand même être en contact avec les Bessamim de la Havdalah. On étudie tous la Torah, bien que chaque rabbin il dit qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah, mais c'est pour faire un shiur de Torah d'une heure. Et puis, on dit toujours, bon, on ne se dit pas shalom, mais ça veut dire qu'on se dit shalom. Et puis, il y a plein de gens qui ne s'assoient plus vraiment, vraiment par terre. Il est temps pour nous de corriger également les 5 problèmes de la Mishnah, c'est-à-dire de retourner en Eretz Israël, ça on l'a fait, de reconstruire Jérusalem, ça on l'a fait, pour enfin pouvoir reconstruire le dernier élément qui nous manque pour pouvoir enfin annuler Tisha B'Av, ou du moins, pas l'annuler, mais le transformer, c'est reconstruire le Beth Amikdash à ce moment-là. Eh bien, Tisha B'Av ne disparaîtra pas. Il y a même fort à penser qu'on aura encore 10 événements de Tisha B'Av qui vont nous arriver, mais qui seront 10 événements de Simcha, comme on a lu hier dans la Megillah, « Vekara alai Moed lishbor bachurai ». Le jour de Tisha B'Av deviendra un jour de Moed, non seulement Moed, mais une fête véritable dans le peuple juif. Et comme vous le savez, eh bien, les fêtes dans le peuple juif durent 7 jours. Donc si Tisha B'Av deviendra une fête, Yom Rishon Shel Chag, eh bien Yom Shevi'i Shel Chag, ce sera tout béav qui deviendra ce qu'il doit véritablement être depuis toujours, ben, un jour qui est le plus important et le plus joyeux de toute l'année d'Israël. Voilà, je nous souhaite que l'année prochaine, on puisse se retrouver tous, pas en Zoom, mais en vrai, panim el panim, le Bet Amikdash, Birushalayim, Amen, Keni Ratzon.
Tout d'abord, Rav Ethan Fison, Rav de la Kina de Tsurachim, à Jérusalem. Il y a quelqu'un qui nous pose comme question, qui nous dit, eh ben, du fait qu'on est en Eretz Israël, alors on devrait pouvoir déjà manger. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'en pense que tu as raison, mais qu'il faut que le grand rabbinat d'Israël y décide, et vu qu'il n'a pas encore prévu de décider, on va encore tenir pendant quelques heures.
Merci. Merci. S'il y a d'autres questions, c'est le moment de poser vos questions par chat.
Voilà. Ou même, sinon, je vais chercher mes filles à la Ketana. Donc, à bientôt.
Ça marche. Je vais
là-bas. Chazak Baruch.
On continue. Restez con. Restez connectés.